Bienvenue à cette première conférence des quatrièmes journées de l'économie. Peut-on domestiquer la mondialisation? Voici le sujet que nous allons aborder maintenant. Je vais vous demander de cesser vos conversations pour que nous puissions entrer dans le vif du débat. S'il vous plaît. Merci. Peut-on domestiquer la mondialisation? Le sujet est tellement chaud que je ne vais surtout pas le traiter, mais juste en définir les termes très, très brièvement. La mondialisation d'abord, puisqu'on entend dire beaucoup de choses dessus. La mondialisation, comme le montre un simple test, un simple exercice étymologique, c'est l'action de rendre mondial. L'action de rendre mondial, et nous allons nous concentrer ici sur l'action de rendre mondial les échanges, et en particulier les échanges de marchandises et de services. Donc la mondialisation dont nous allons parler, c'est celle-ci. Ensuite, le mot finalement le moins évident, c'est le mot domestiquer. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que veut dire domestiquer. Le premier sens, c'est rendre domestique une espèce animale sauvage. La mondialisation est-elle une espèce animale sauvage? C'est vrai qu'il y a des mouvements très violents dans la mondialisation dont nous allons parler. Et faut-il donc la domestiquer? La deuxième définition, c'est amener à une soumission totale. Mettre dans la dépendance, et ça renvoie au mot « asservir ». Faut-il vraiment asservir la mondialisation? Avec une question derrière, c'est si on l'asservit, c'est au profit de qui? Dans les discours, c'est toujours au profit des peuples. Dans la réalité, quand on regarde ce qui se passe dans les pays qui ouvrent les frontières volontairement, mais plus encore dans ceux qui la ferment pour domestiquer cette mondialisation, ceux qui en profitent, ce ne sont généralement pas les peuples, mais ce sont souvent quelques-uns, de très grandes entreprises, des oligarques, c'est ce que montre toujours l'histoire. La troisième définition de domestiquer, c'est maîtriser pour utiliser. Et donc là, ça renvoie au sens dompter, et je pense évidemment que c'est dans ce sens-là qu'avait été pensée cette conférence, mais derrière les mots, il y a toujours plusieurs sens. Donc faut-il domestiquer la mondialisation? Est-ce un bien ou un mal? Derrière, il y a la question, qui peut domestiquer la mondialisation? Est-ce que c'est le pouvoir politique? Est-ce que c'est les pays? Est-ce que c'est les organisations internationales, même si elles ont actuellement du mal à le faire? Est-ce que c'est les entreprises, puisque c'est elles qui clairement mènent la mondialisation depuis 20 ans, après les décisions politiques des États qui ont permis cette mondialisation? Ou bien est-ce l'homme lui-même? Est-ce que c'est l'éthique? Et je voudrais renvoyer à une phrase de David Ricardo. David Ricardo était un économiste anglais, c'est lui qui avait théorisé le premier grand théoricien du commerce international, avec les avantages comparatifs dont certains ont dû évidemment entendre parler dans cette salle. Mais il parlait déjà de la délocalisation, Ricardo, et il pensait qu'elle n'aurait pas vraiment lieu. Et je vais vous dire pourquoi en lisant sa phrase, puisque lui, il pensait que c'est l'éthique qui freinerait la délocalisation. Il disait... Bien des causes s'opposent à la sortie des capitaux. La crainte bien ou mal fondée de voir s'anéantir à l'étranger un capital dont le détenteur n'est pas le maître absolu, ça c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, et la répugnance naturelle qu'éprouve tout homme à quitter sa patrie et ses amis pour aller se confier à un gouvernement étranger et assujettir des habitudes anciennes à des mœurs et à des lois nouvelles. Ces sentiments que je serais fâché de voir affaiblis décident la plupart des capitalistes à se contenter d'un taux de profit moins élevé dans leur propre pays, plutôt que d'aller chercher un emploi plus lucratif de leurs fonds dans des pays étrangers. Voilà ce qu'écrivait David Ricardo au XIXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle, nous allons voir si la question se pose toujours dans les mêmes termes. Et je donne d'abord, d'abord même un mot sur l'organisation de la session. Nous allons donc d'abord entendre Pascal Lamy, qui est directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Ensuite, nous allons voir des réactions, des rebonds, d'autres éclairages. De Bernard Buckman, qui est directeur du département commerce international de la Banque mondiale, de Pierre-Noël Giraud, qui est professeur à Mines Paris Tech, comme on dit maintenant, de Roger Guenry, qui est professeur au Collège de France et président brillant du comité scientifique des Journées de l'économie, et puis aussi de François Bourguignon, qui est notamment directeur de Paris School of Economics. Mais donc on commence par vous, Pascal Lamy. Ça fait aujourd'hui exactement 10 ans, jour pour jour, qu'a commencé le dernier round de négociations commerciales, le round de Doha, qui était peut-être une nouvelle tentative de domestiquer la mondialisation, un round qui s'est pour l'instant enlisé malgré tous vos efforts. Quels sont les regards que vous portez, les avis sur cette mondialisation à domestiquer?
Merci. En quelques mots, d'abord parce que cette question me rappelle de bons souvenirs. C'est celle à laquelle j'avais dû répondre en 99 quand j'ai passé mon examen de passage de commissaire européen devant le Parlement européen. Et à l'époque, la question, c'était peut-on maîtriser la mondialisation ? Vous venez d'expliquer que c'est un des sens de cette domestication. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est un sujet auquel j'ai eu quelques occasions de réfléchir depuis. En deux mots, d'abord, qu'est-ce que c'est que la mondialisation, si on veut la domestiquer, la maîtriser, ce qui est, je crois, ce qu'il faut faire. Ensuite, comment le faire ? Et enfin, peut-être, atterrir sur qu'est-ce que ça signifie pour l'Europe et pour un pays comme la France. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la mondialisation ? Chacun, vous venez de le dire à juste titre, en a sa propre définition. La mienne, c'est que la mondialisation est un stade historique de l'évolution du capitalisme de marché, qui dans l'histoire en a connu d'autres, et en connaîtra d'ailleurs probablement d'autres dans l'avenir. Et cette phase historique se caractérise par l'expansion de la taille des marchés et par des bouleversements dans la division internationale du travail. Quels sont les principaux moteurs et les principaux impacts de cette phase d'évolution du capitalisme de marché? Ces principaux moteurs, il y en a trois. Le premier, c'est le développement des pays en développement, sans aucun précédent dans l'histoire de l'humanité, ni du point de vue de la taille, ni du point de vue de la vitesse de ce développement et la pénétration de ces pays dans le système des échanges internationaux. C'est la première cause de la mondialisation. C'est la vitesse et la force du développement de pays comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Indonésie, pour ne prendre que quelques exemples. Le deuxième moteur très puissant, c'est la technologie, comme d'ailleurs dans les phases précédentes de mondialisation. Elles ont pour la plupart toutes été démarrées par des changements technologiques, et les deux grands changements technologiques de cette phase de mondialisation, c'est la conteneurisation et Internet. Alors Internet, on y pense souvent, la conteneurisation, on n'y pense pas souvent, et pourtant c'est probablement une évolution qui d'ailleurs n'a rien d'absolument phénoménal, parce que mettre des choses dans des boîtes plutôt que de les transporter en vrac, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour ça, mais ça a divisé en gros le coût du transport des biens d'un facteur 50 en quelques années. Et l'autre, évidemment, c'est Internet, avec tout ce que ça comporte de réduction des distances. Et ces deux éléments ont été fondamentaux parce qu'ils ont formidablement réduit les coûts liés à la distance dans l'échange international. Chacun sait qu'il y a des frottements, qu'on commerce plus facilement avec son frère que son cousin que son voisin. Eh bien, la conteneurisation et Internet font que les voisins deviennent cousins et les cousins deviennent frères. Et puis, il y a un troisième facteur qui est l'ouverture des échanges dans tout ce qui s'est passé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, au GATT, puis à l'OMC, dans la réduction d'un certain nombre d'obstacles, non pas de nature économique ou technologique, mais de nature réglementaire, les droits de douane, les réglementations qui ont effectivement ouvert les échanges. Impact, nous connaissons maintenant assez bien la nature de l'impact de cette mondialisation, que je résumerai au risque de choquer des économistes plus compétents que moi, en disant que c'est un choc ricardo-schumpeterien. Hein Ricardo, vous en avez parlé un instant, c'est-à-dire que c'est selon ce qu'avait exposé Ricardo, cette division internationale du travail crée énormément d'efficience. À partir du moment où je fais quelque chose mieux que vous et où vous faites quelque chose mieux que moi, nous avons tous les deux intérêt à l'échange. Je vais bénéficier de votre savoir-faire, vous allez bénéficier du mien. Évidemment, je vais faire plus de ce que je sais faire et moins de ce que je ne sais pas faire, et vice-versa pour vous. Et ça, c'est le côté schumpeterien. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un choc sur les structures économiques et sociales qui conduit à des transformations qui sont d'autant plus rapides et par conséquent difficiles à gérer et à accepter que les gains d'efficience sont importants. Donc plus vous avez d'efficience, plus vous avez de croissance. Au fond, là, qu'est-ce que c'est que la croissance ? La croissance, c'est la somme de davantage d'efficience. Donc plus vous avez d'efficience, plus vous avez de croissance, mais en même temps, plus vous avez de chocs de cette nature qui, évidemment, suppose des adaptations qui sont extrêmement difficiles, voire douloureuses, notamment en raison des transformations économiques et sociales que ceci implique. D'où, au fond, cette remise à l'ordre du jour, comme d'ailleurs lors de la dernière phase analogue à celle-ci de la globalisation, qui a été la grande révolution industrielle du XIXe siècle, d'où la remise à l'ordre du jour de ce qu'on appelle la question sociale. Simplement, à l'époque, cette question sociale était d'ordre national, encore que, souvenez-vous, d'aucuns avaient quand même prévu que ce serait une question internationale, ça se chantait d'ailleurs, ça se chante encore de temps en temps. Donc il avait assez bien vu que, bien que les formes n'en soient que nationales, la question était internationale. Eh bien, c'est vrai que maintenant, on est en face d'une question sociale internationale. D'ailleurs, il y a un petit bouquin qui vient de sortir de Jean-Michel Severino, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais qui explique ça très très bien, chez Odile Jacob, il appelait ça le grand basculement. Hein, et au fond, sa thèse, c'est que, et je crois qu'il a raison, c'est qu'on est maintenant en face d'une question sociale mondiale, et c'est que c'est de cette manière qu'il faut la traiter. Alors, comment faire ? Il y a deux familles de solutions, celle à laquelle on pense souvent, et à juste titre, qui est il faut réguler globalement ces questions qui sont devenues globales. La globalisation globalise des problèmes qui jusqu'à présent étaient locaux, et donc il faut pour cela ce qu'on appelle davantage de gouvernance internationale. Et c'est vrai en matière de commerce, c'est vrai en matière de finance, c'est vrai en matière de santé, c'est vrai en matière d'environnement, c'est vrai en matière sociale. Et si on veut d'ailleurs un exemple de ce qui se passe si on ne le fait pas, il suffit de prendre la crise financière qui a généré cette crise économique et sociale dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous avons beaucoup de mal à sortir. L'origine de cette crise, c'est un défaut de régulation globale d'une industrie qui était la plus globale des industries globales, qui était l'industrie financière. C'est donc un trou, un manque de cette régulation globale qui est pour beaucoup dans la crise dans laquelle nous sommes. Il suffit de voir qu'en matière d'environnement, c'est une question qu'on ne peut traiter, dans les questions de changement climatique ne peuvent être traitées que de manière globale. C'est vrai en matière commerciale et c'est aussi vrai d'ailleurs en matière sociale. Donc il y a tout ce volet, régulation, gouvernance internationale par des organisations dont il faut néanmoins bien préciser qu'elles appartiennent à leurs membres. Ce n'est pas Christine Lagarde qui dirige le FMI, Bob Zoellick qui dirige la Banque mondiale, Lamy qui dirige l'OMC, Somavia qui dirige l'OIT, comme des présidents ou des premiers ministres dirigent leur pays. Nous n'avons qu'une autorité exécutive extrêmement limitée parce que nous devons en permanence rendre compte à nos membres, quelles que soient les formes que cela prend, et en général, il faut qu'ils soient d'accord. La règle principale du système international, c'est le consensus, et chacun sait que le consensus donne une prime considérable à celui qui ne veut rien faire. C'est le poids de celui qui dit non dans le système international est infiniment supérieur au poids de celui qui dit oui ou veut faire quelque chose. Donc ça, c'est tout un volet, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter. J'insiste sur le second volet, qui, à mon avis, est absolument primordial, qui est ce qui dépend dans la domestication et dans la maîtrise de la globalisation des politiques nationales, domestiques. En réalité, dans la perception qu'on en a, on fait porter trop de poids sur les régulations globales, au demeurant nécessaires, et pas assez sur les politiques domestiques. Ce sont les politiques domestiques qui font la différence entre ceux qui réussissent bien et ceux qui ne réussissent pas dans la mondialisation. Hein, si vous regardez la carte du monde, si vous regardez ce qui s'est passé depuis 12, 20 ou 30 ans, certains ont bénéficié de la mondialisation, d'autres en ont pâti, que globalement, il y ait un gain sur le plan économique, ça n'est pas contestable, mais la répartition de ce gain dépend faiblement des régulations globales et fortement des régulations globales. Il suffit d'ailleurs de voir ce qui se passe en matière d'inégalité. Une des conséquences du choc schumpeterien que j'indiquais tout à l'heure, c'est effectivement une croissance des inégalités. C'est-à-dire que la globalisation, si vous regardez la carte du monde, a réduit le nombre de pauvres sur cette planète de centaines de millions de personnes, mais a aussi augmenté à l'intérieur de ces mêmes pays les inégalités de revenus. Et ça, ça fait partie de choses qui restent de domaine de la souveraineté nationale. Ce sont des choses qui doivent être régulées au plan national. Et pour prendre un exemple très, très simple, regardons en Europe les pays qui ont le plus et le mieux bénéficié de la mondialisation en s'y adaptant dans de bonnes conditions. Ce sont ceux dont les systèmes sociaux, éducatifs, de formation sont les meilleurs, c'est-à-dire en très gros l'Europe nordique. Et donc cette question est évidemment très très importante et je crois qu'il faut bien veiller, quand on parle de maîtrise et de domestication de la mondialisation, à bien intégrer ce volet national, ce volet local. Il y a une partie globale, certes, et il faut s'y attacher et continuer à essayer de le faire avancer, mais cette partie domestique est évidemment fondamentale. Dernier point pour prendre l'exemple de l'Europe ou de la France sur le plan économique. D'abord pour redresser une ou deux contre-vérités. Ce que j'appelle contre-vérité, ce sont des choses qui sont admises, mais qui ne sont pas vraies. La première étant que, globalement, l'Europe se débrouille mal dans la globalisation. Alors ça, c'est une erreur. Les chiffres disent le contraire. Depuis 10 ou 20 ans, l'Europe a mieux géré la mondialisation au sens que vous lui donniez tout à l'heure, c'est-à-dire de l'échange international, que des concurrents comme les États-Unis ou le Japon. La part de marché mondial de l'Europe est restée stable à peu près 20%, pendant que les États-Unis ou le Japon baissaient de manière tout à fait significative. Donc l'Europe n'est pas la victime, plus ou moins innocente, d'une mondialisation qu'elle maîtriserait moins bien que les autres. Deuxième contre-vérité, qui d'ailleurs de temps en temps est associée à la première, ce serait l'idée que si l'Europe fait mal dans la mondialisation, ce qui n'est pas exact, c'est parce qu'elle est naïvement ouverte, offerte, victime sacrificielle par l'absence de volonté ou par la très grande naïveté des Européens dans l'échange international. C'est aussi une erreur. Regardons les chiffres, regardons les réalités. L'Union européenne est un ensemble économique et social qui n'est pas moins protégé que les États-Unis, le Japon, la Suisse, l'Australie, le Canada, pour ne prendre que des exemples de pays développés. Il est vrai que le niveau de protection des pays développés n'est pas le même que celui des pays en développement, ou plus exactement d'un certain nombre de pays en développement, mais il n'est pas exact de partir du principe que, un, l'Europe est la victime, et deux, qu'elle est en quelque sorte la victime consentante. Hein, les chiffres disent le contraire. Alors, est-ce que pour autant tout va bien ? Non, parce que c'est vrai que sa compétitivité se dégrade très lentement, mais néanmoins, et qu'à l'intérieur de l'Europe, de même qu'à l'intérieur du monde, il y en a qui font bien et d'autres moins bien, à l'intérieur de l'Europe, il y en a qui font bien et d'autres moins bien. En gros, par rapport à la moyenne, la moyenne, c'est l'Allemagne. Ceux qui font mieux de l'Allemagne, c'est les pays qui sont récemment entrés dans l'Union européenne, les pays d'Europe centrale et orientale, du point de vue de la compétitivité et de l'insertion dans l'échange international. Et ceux qui font moins bien que l'Allemagne, c'est en gros la France, l'Italie, l'Espagne. Pourquoi ? Non pas, comme on le dit souvent en France, pour des raisons de compétitivité et prix, hein, français serait trop cher, les Allemands moins cher. Tout ceci n'a pas de sens si on ne regarde que les salaires, ce qui est une erreur très commune et je reconnais parfois tentante. Ce qui compte, c'est pas le niveau des salaires. Ce qui compte, c'est le rapport entre les salaires et la productivité. Peu importe que les Chinois soient payés 8 fois moins que les Européens, dès lors qu'il faut toujours 8 Chinois pour faire ce que fait un Européen. Donc, de ce point de vue-là, la question n'est pas là, d'autant plus que, pour prendre le cas de la Chine, le salaire minimum chinois, en gros, il augmente de 15 à 20% par an, ce qui prouve d'ailleurs que cet avantage n'est que très relatif. Le vrai problème, c'est, je crois, et je termine sur ce point pour donner un côté un petit peu concret à ce débat, le vrai problème, c'est la compétitivité hors prix. C'est ce qui fait que, en gros, l'Allemagne a beaucoup mieux utilisé cette phase de la mondialisation qu'un certain nombre de ses voisins, parce que plus tôt, et de manière plus résolue que ses voisins, elle a identifié le problème comme étant la recherche, l'innovation, les qualifications, l'éducation, le tissu des PME, les problèmes de marque, et que, au fond, c'est là que réside, à mon sens, et avec, disons, l'expérience que je peux en avoir, c'est là que réside le défi pour un pays comme la France. Hein, si on regarde, et c'est vrai d'ailleurs pour les pays développés comme pour les pays en développement, si on a fait une analyse globale de tous les facteurs, le facteur le plus discriminant dans le succès dans la maîtrise et la domestication de la mondialisation, ça s'appelle l'éducation. Et je crois que l'expérience montre que c'est là qu'est l'essentiel. Je sais bien que politiquement, c'est un sujet à la fois difficile et au fond pas très commode, parce que ce qu'on doit faire pour améliorer les systèmes éducatifs prend énormément de temps, et que forcément, quand on est en politique, on a un taux d'actualisation très court. Donc dire voilà ce qu'il faut faire, mais je vous préviens, si on commence vraiment à s'y mettre sérieusement maintenant, et si on essaie de faire mieux que nos prédécesseurs, qui d'ailleurs n'ont pas fait forcément que des bêtises tout le temps, je vous préviens, c'est dans 10 ans qu'on va avoir les résultats. Politiquement, c'est pas très très rémunérateur, et pour cent, ma conviction, c'est que c'est là que réside l'essentiel du problème.
Merci Pascal Lamy. Petit point d'ordre, quand j'ai déroulé le plan de cette session tout à l'heure, j'en ai oublié la moitié. Donc, après les quatre interventions en réaction à celle du directeur général de l'OMC, vous aurez la parole, vous pourrez poser des questions. Et ensuite, Jean-Pierre Jouyet, qui est le grand témoin de cette quatrième édition des Journées de l'économie, fera une synthèse, renverra aussi des questions. Et en tant que grand témoin, s'il souhaite intervenir auparavant, il pourra naturellement le faire. Mais ça fait un timing très serré. Et donc, les quatre intervenants qui vont parler maintenant, je vais regarder la pendule très minutieusement. Je les en ai prévenus. Et donc, on va commencer tout de suite avec Bernard Huckman, sur donc un peu une compréhension plus en profondeur de cette évolution profonde du commerce qu'a évoqué Pascal Lamy tout à l'heure.
Merci beaucoup. D'abord, je veux m'excuser pour mon français. Je suis néerlandais et je travaille dans une organisation internationale qui est un aspect de la mondialisation. Et on parle anglais dans ce monde. So, moi, je suis plutôt plus à l'aise à l'hollandais et l'anglais, mais je vais parler en français, je vais essayer.
Merci.
J'ai une présentation plus longue qui est postée sur le site de CCI, mais je voudrais, dans mon 10 minutes, souligner 3 points. Et c'est très consistant avec ce que M. Lamy a dit. Premièrement, la globalisation, c'est vraiment une force pour le bien. Deuxièmement, il y a aussi des coûts. Il y a des coûts des ajustements, il y a des chocs, il y a des volatilités. Troisièmement, le protectionnisme n'est pas une solution. Et de plus en plus, les entreprises partout dans le monde réalisent cela. Et les politiques ont vraiment changé beaucoup, je crois. So, la libéralisation et l'intégration des pays en développement a eu beaucoup de bénéfices. C'est le premier point. Il y a des réductions des prix de dizaines de milliers de biens. Il y a beaucoup plus de variété et de choix pour les consommateurs et surtout aussi pour les entreprises. Il y a la création d'un marché vraiment mondial. Le soutien de la croissance dans les pays émergents était vraiment impressionnant. Et il y a des créations massives aussi de l'emploi dans les pays en développement. Quelques exemples concrets. Aujourd'hui, il y a 500 millions de Chinois qui ne vivent plus en dessous du seuil de pauvreté. En Inde, c'est 200 millions de gens. Ça, c'est vraiment quelque chose de formidable qui s'est passé dans les 3 décennies de passé. Grâce aux chaînes de production internationales, tous les pays maintenant peuvent participer et bénéficier du commerce international. Le revenu moyen par habitant devrait doubler dans les pays en développement d'ici à 2030. Et ça, c'est quelque chose de vraiment impressionnant aussi. Et j'ai une diapositive sur ça. Il y a plus qu'un milliard d'habitants dans les pays en développement qui feront partie de la classe moyenne. Ce sont des gens dont le revenu se situe entre 4 000 et 16 000 dollars. Et ces gens, ça veut dire que c'est vraiment un grand marché, c'est un autre pôle de la croissance mondiale. Bien sûr, il y a aussi des aspects négatifs. Il y a plus de compétition pour ce marché et il y a des coûts d'ajustement dans tous les pays, pas seulement les pays riches, mais aussi les autres pays en voie de développement. La Chine est une force formidable et il y a beaucoup de pays en Afrique qui souffrent de la compétition de la Chine. Il y a aussi plus de volatilité sur les marchés. Il y a aussi une autre diapositive. Le volume de commerce a chuté dramatiquement en 2008-2009 avec la crise financière. Mais on veut aussi... Les échanges ont aussi repris très rapidement grâce aux mesures de relance mises en place par le gouvernement et l'interdépendance des pays connectés entre eux par des chaînes d'approvisionnement mondiales. Sur les chaînes de production ont eu un impact très grand sur la chute de la commerce internationale, mais en même temps avec la relance de la demande, on a vu aussi une croissance aussi très formidable aussi. Maintenant, ce n'est pas grand-chose pour la croissance de la commerce international, mais le rebondi était vraiment très remarquable aussi. Nous avons vu nombreuses mesures de politique commerciale qui sont utilisées par des pays, mais rien de l'ampleur observée dans les années 80 ou encore pire les années 30. La plupart des mesures protectionnistes qui ont été prises sont prises par les pays en revenu moyen du G20 et pas par les pays riches. est aussi une illustration. Ce sont des mesures qui sont prises par les pays, et les barreaux rouges sont les mesures qui sont prises par les pays émergents. Mais l'ensemble de ces mesures, il y a une croissance, mais l'ensemble, l'impact sur le commerce international n'était pas grand-chose. Il touche pas plus que 2% du commerce international. Et c'est à cause de ça qu'on a vu cette rebondie très vite après la chute très brutale. Il est bon de souligner que nombreux pays ont libéralisé leur commerce dans le but de réduire les prix de la consommation, réduire les coûts pour des entreprises. Et ici, un autre diapositive. Ce n'est pas très facile à lire, je crois. Mais les barreaux verts sont des actions qui sont prises par des pays en 2008, 2009, 2010 pour libéraliser la commerce. Donc, c'est pas, toutes les actions ne sont pas dans le sens du protectionnisme. Il y a aussi beaucoup d'interventions pour libéraliser la commerce. Et il y a beaucoup de recherches maintenant qui montrent que la spécialisation verticale, les chaînes de production, les chaînes des approvisionnements ont joué un rôle très significant dans le choix des politiques de réponse de la crise. Certes, cela veut dire pas qu'il n'existe pas de pression pour soutenir des industries nationales, mais les politiques employées changent. Le focus est maintenant surtout sur la réduction des coûts des inputs, pour aider les producteurs nationaux, c'est pas sur la voie de la protectionnisme classique. So, il y a toujours des politiques industrielles, et j'ai vu qu'il y a une séance sur la politique industrielle qui vient dans ces jours, mais c'est pas le protectionnisme classique. So, la crise a montré qu'avec une plus grande ouverture vient plus de volatilité. Mais une telle crise réclame le type de réponse que nous avons vu, des mesures de relance fiscale et monétaire, pas des politiques protectionnisme. Il y a aussi des filets de sécurité, surtout pour les plus vulnérables, les ménages pauvres qui ne possèdent qu'une épargne limitée. Et les implications pour les politiques domestiques se situe pas dans le domaine de la politique commerciale, mais dans celui des marchés et des facteurs. Et c'est surtout, ce sont des politiques domestiques, comme on a déjà dit Monsieur Lamy, des politiques pour gérer des pressions de l'ajustement, pour faciliter l'investissement dans les industries nouvelles à haute valeur ajoutée, et finalement, et très important, l'éducation. Et j'ai une minute, j'ai une diapositive sur l'éducation, qui je crois est très intéressante, surtout pour tous les étudiants dans la salle. Ce graphique montre l'évolution du nombre d'années d'éducation dans les pays. Nous voyons une grande disparité dans le nombre d'années d'éducation dans les pays riches et les pays émergents pour la cohorte de l'âge 60-64 ans. Et les bulles sont les tailles des marchés, le nombre de gens avec une éducation dans les pays. Et on peut voir plus haut à droite, c'est les États-Unis. Il y a une petite bulle là-bas qui est la France. Et les grandes bulles en bas, c'est la Chine et l'Inde. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'éducation dans ces pays. Et ce sont aussi des pays qui sont plus pauvres. Le bar horizontal, c'est le BNP par capita. Ça, c'est aujourd'hui pour des gens environ 60 ans. Si on regarde la situation pour les jeunes d'environ 25 ans, on voit que ça change vraiment beaucoup. La Chine et l'Inde, il y a beaucoup plus de gens avec l'éducation et ils ont beaucoup plus d'éducation, plusieurs années de l'éducation. Et on voit sur la droite et en haut, il y a des pays dans l'OCDE où les choses n'amélioraient pas, et il y a d'autres où il y a un grand investissement dans l'éducation. Et je crois que pour domestiquer la mondialisation, comme a renforcé M. Lamy tout à l'heure, c'est très important de continuer à investir dans l'éducation. Et c'est un sujet pour la France. On peut voir dans les statistiques que la France feront vraiment très bien dans ce domaine. Ça, je crois, C'est un aspect positif. Les séances tout à l'heure étaient un peu négatives. Je crois que les statistiques plus globales sont plus positives pour la France. Merci.
Merci Bernard. Nous voyons que l'éducation est pour l'instant le fil rouge, hein, non seulement de cette session, mais aussi de cette matinée, puisque nous en avons beaucoup parlé dans la session inaugurale. Pierre-Noël Giraud, un regard maintenant un peu différent. Pascal Lamy a parlé de l'importance du volet national. Il a aussi expliqué que l'Europe n'était pas une victime. Est-ce que vous partagez exactement ces convictions ?
Merci. Donc je vais vous parler de l'industrie qui, comme vous le savez, est un sujet qui monte. Vous en avez fait d'ailleurs avec, comme toujours, une excellente intuition de quels sont les bons sujets, l'objet de la table ronde finale sur la politique industrielle. Je vais partir de deux constats, donc des chiffres, faire quatre commentaires sur ces chiffres et en tirer rapidement cinq conclusions ou propositions de politique économique où on verra la part des politiques domestiques dont je suis d'accord qu'elles sont essentielles, je suis entièrement d'accord avec Pascal Lamy là-dessus, mais aussi peut-être des efforts à faire dans le domaine de la coopération internationale. Bon. Alors, premier constat, si on parle de globalisation, on doit prendre l'habitude de raisonner en ce qui concerne les emplois dans un territoire entre les emplois qu'on peut appeler nomades, qui sont plongés dans l'économie globale et qui sont en compétition avec des emplois dans d'autres territoires, et si ces emplois perdent leur compétitivité, ils disparaissent dans un territoire pour apparaître ailleurs. Et puis les emplois dits sédentaires, qui sont des emplois qui produisent des biens et services qui ne circulent pas entre les territoires. Bon. Les chiffres pour la France, très grossièrement, nous avons 28% d'emplois nomades, industrie, services liés à l'industrie ou services exportables, services financiers par exemple, et agriculture. Et nous avons 72% d'emplois sédentaires, produisant des biens, bâtiments, travaux publics, y compris le ciment, qui voyage assez peu, des services privés et les services publics, qui représentent 21%. Bon. Il faut désormais voir l'économie d'un pays comme donc l'articulation entre deux économies. Une économie nomade plongée dans la compétition internationale et puis accrochée à celle-là, une économie sédentaire. Avec évidemment des liens entre les deux qui sont très simples. Les nomades ont besoin d'acheter des facteurs de production et ils achètent des biens finaux aux sédentaires. Et les sédentaires produisent pour eux des biens et services sédentaires et achètent des biens nomades aux nomades. Bon. Alors, à partir de là, quelques remarques. Premièrement, je vous ai dit 28-72, oh, c'est des ordres de grandeur. Nous n'avons pas une comptabilité en termes de nomades et sédentaires, et pourtant nous devrions. Mais ça, c'est un phénomène très général. On a la comptabilité qui correspond au problème d'il y a 30 ans. On n'a jamais la comptabilité qui correspond aux problèmes actuels. Bon. Deuxième remarque, et ça c'est fondamental, plus les sédentaires sont pauvres, plus les compétitifs sont compétitifs. L'informaticien indien formé à Stanford qui rentre à Bangalore, au taux d'échange de la roupie contre le dollar, gagnera moins que quand il était en Californie, mais il vivra mieux parce qu'il peut se payer des domestiques qui ne valent rien et une maison de 8 pièces qui ne vaut rien, ce qu'il ne pourrait jamais faire en Californie. Ça, c'est fondamental parce que la solidarité objective au sein d'un territoire qui existait dans les territoires fermés et dans ce qu'on appelait, pour ceux qui connaissent, la croissance fordiste, a disparu. Il n'y a plus aucune solidarité objective, économique, entre les nomades et les sédentaires. Si bien que ça rend les choses difficiles, parce que si elle n'est pas économique, il faut qu'elle soit politique. Bon. Troisièmement, si on veut croître, j'ai fait un petit modèle très simple dans un ouvrage grand public qui montre ça, si on veut croître et en même temps maîtriser la croissance des inégalités, il faut faire deux choses. Augmenter le nombre des nomades, et leur compétitivité relative, c'est-à-dire leur revenu, augmenter donc le nombre et le revenu des nomades, et augmenter l'attrait des biens et services protégés. Puisque plus les biens et services protégés produits par les sédentaires sont attrayants pour les nomades, plus ils en achètent, plus ça attire l'économie sédentaire. Deuxième remarque, je m'appuie sur une étude de McKinsey, qui décompose l'industrie française en un secteur moteur de l'innovation, aéronautique, un secteur de marque, Hermès, des secteurs qui sont par nature continentaux, c'est-à-dire les produits ne voyagent pas très loin, le ciment, la chimie lourde, les secteurs en équilibre instable, l'automobile, et puis des secteurs fortement menacés, le textile, les chantiers navals, etc. Aujourd'hui, les secteurs d'innovation et de marque ne représentent en France que 12% de l'emploi. Les secteurs directement menacés par une perte de compétitivité représentent plus de 50% des emplois, puisqu'une bonne part des emplois continentaux sont en vérité des emplois nomades menacés. Donc, commentaire, il faut bien évidemment, comme on nous le répète sans arrêt, tenir le coup, voire développer le haut des chaînes de valeur, c'est-à-dire les industries d'innovation, les industries de marque. Il faut le faire, évidemment. Mais ça ne servira jamais, ça ne pourra jamais compenser 50% de l'industrie que nous risquons de perdre. En effet, aujourd'hui, la concurrence des pays émergents, c'est une concurrence de firmes globales, y compris les firmes d'origine chinoise ou indienne qui s'insèrent dans des réseaux de firmes globales, qui portent la compétition avec les firmes localisées dans nos territoires à tous les niveaux. Il n'y a plus aucune exception. Demain, nous allons avoir des produits Hermès chinois, qui ne s'appelleront pas Hermès et qui viendront concurrencer nos produits Hermès. Et bien évidemment, les Chinois savent faire des avions de ligne qui vont commencer à vendre sur le marché international. Donc, le commentaire numéro 3, c'est que il existe d'excellentes raisons de conserver sur le territoire européen certains maillons des chaînes de valeur, parce qu'il ne faut pas raisonner en industrie aujourd'hui, il faut raisonner en maillons dans les chaînes de valeur industrielles. Il y a de bonnes raisons d'en conserver quelques-unes, parce que comme l'a dit Pascal Lamy, les salaires en Chine augmentent de 10 à 15 ou 20% par an, et dans 15 ans, dans toute une série de maillons de chaînes de valeur, l'avantage qu'on prit de la Chine ou de l'Inde aura disparu. Mais si nous, pendant ce temps-là, nous laissons disparaître ces maillons des chaînes de valeur, nous allons détruire un capital humain considérable. Par exemple, si nous n'avons plus d'industrie manufacturière, nous n'aurons plus d'école des arts et métiers. Alors l'école des arts et métiers, c'est le pilier de l'industrie manufacturière française. Et pour reconstruire un système d'éducation, on en parle beaucoup, capable de fournir les compétences nécessaires à reconstruire une industrie manufacturière, il nous faudra, comme la Chine, 20 ans. Donc si nous laissons détruire dans les 15 ans qui viennent ce capital humain, nous aurons à le reconstruire à un coût très élevé. Donc si nous gérons en bon père de famille notre capital humain, eh bien nous devons faire en sorte de conserver ces maillons des chaînes de valeur dans le territoire européen pendant le temps que finalement nous ne soyons plus en compétition pris sur ces maillons-là. Vous me direz, et l'Afrique ? Mais l'Afrique va accueillir dans un premier temps le textile, le montage, etc., que nous ne voulons pas conserver. Donc le problème de l'Afrique, c'est que c'est l'Inde et la Chine qui doivent, beaucoup plus qu'elles ne le font, délocaliser en Afrique et développer ainsi l'Afrique. Donc en un mot, nous sommes aujourd'hui, à mon avis, devant une situation où l'industrie mondiale est mal répartie. Il n'y en a pas assez en Afrique, il n'y en a pas trop dans les pays émergents, bien sûr que non, mais elle est trop extravertie et nous n'en avons plus assez. Quand je dis nous, c'est l'Europe en général, avec des différences au sein de l'Europe qui ont été remarquées, évidemment, mais le Japon, etc. Bon. Alors, comment s'y prendre ? Eh bien, à mon sens, il faut commencer par symétriser les relations que nous avons avec la Chine et l'Inde. Alors, Pascal Lamy a dit, on n'est pas les dindons de la farce de la globalisation. C'est tout à fait vrai. On s'en tire pas trop mal. Mais je pense que les conditions de la compétition, compte tenu des niveaux technologiques acquis, sont aujourd'hui inégales. Et qu'il faut commencer à négocier avec les Chinois et les Indiens en leur disant, bon, écoutez, imaginons qu'on fasse ce que vous faites, vous. Protéger votre marché intérieur, soutenir vos firmes, etc. Si on faisait ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils ne seront pas contents. On leur dit, d'accord, on ne va pas le faire, mais on va négocier. On va négocier avec vous une re-répartition par des moyens qu'il faut réfléchir, qui ne sont certainement pas le protectionnisme pur et simple, mais on va négocier une re-répartition de la répartition mondiale de l'industrie. Et nous, on veut garder un certain nombre de maillons. Et parlons-en. Et parce que ces résultats peuvent s'obtenir sans protectionnisme. Ils peuvent s'obtenir par des politiques monétaires adaptées. La question du yuan, le taux de change du yuan, ils peuvent s'obtenir par des coordinations des politiques macroéconomiques adaptées. Voilà. Et bien, j'ai fini. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Deux slides. Comprendre. On ne comprend rien à ce qui se passe. Il nous faut des comptabilités en termes de nomades sédentaires. Il nous faut des comptabilités des flux de commerce en valeur ajoutée. Et il nous faut des comptabilités de stock. Qu'est-ce que c'est notre capital humain ? À quelle vitesse se détruit-il? Combien cela en coûtera-t-il de le reconstruire? Deuxièmement, il faut évidemment faire ce qu'on nous rassasse sans arrêt depuis le traité de Lisbonne. Hein, tout faire pour améliorer la compétitivité qualité hors prix des nomades high-tech. Alors innovation, recherche, formation, réforme fiscale, oui. Deuxièmement, il n'y a aucune raison de se moquer du secteur nomade non high-tech. Autrement dit, il ne faut pas opposer la France des châteaux et la France de l'aéronautique et de l'Internet. Enfin, il faut, c'est fondamental, améliorer la productivité dans le secteur sédentaire, 72% de notre pays, absolument fondamental, et la question taboue que je pose, mais qui commence à émerger, ceci suffira-t-il, politique interne, tout ça c'est des politiques domestiques, ça relève de nous. Je pense que non, il faut aussi engager une négociation globale sur la répartition meilleure de l'industrie dans le monde. Merci.